Heya, ar fetu mam. Ce balado est le résultat d'un projet qui visait à rassembler et créer un espace de discussion confortable au sujet de la crise environnementale. Je m'appelle Chloé, j'aime apprendre sur la complémentarité indéniable des arts et des sciences, et c'est pourquoi j'ai invité 8 visages dans l'optique de jaser d'environnement autour d'un boire. On a fourni à l'avance 5 questions à tous les invités afin d'encadrer avec souplesse la discussion, comme un genre de moule à muffin bien mou. La formule participative a permis au public d'intégrer la discussion tout au long des conversations, mais on n'a pas tous les mêmes expertises. Je vous invite donc à écouter nos échanges dans le respect et surtout dans la douceur. J'espère qu'on vous pourra vous brasser les idées et vous inciter à vous poser une couple de questions. Bonne écoute! 11 juillet 2020, dans le pays de la Haute-Gaspésie. On refait le monde par visioconférence et à l'abri de la pluie dans le tiki bar du Sichac avec Emmanuel Bilodeau.
On n'est rien, tu sais. Il y a eu une grande mode dans les années 70 d'appeler ça la Earthship, qu'on était un vaisseau spatial, puis qu'on était tous poignés dedans, puis qu'il fallait qu'on fasse des petites choses essentielles pour préserver l'air pur, puis l'eau. Ça me paraît assez juste. On est vraiment interdépendants, puis on ne peut pas faire des choses sans espérer que la Chine, l'Inde et le Texas et tous les autres pays plus ou moins proches fassent la même chose.
Les discussions et la projection de la visio se sont déroulées d'abord à l'extérieur, avant qu'un bel orage nous surprenne et nous empêche d'enregistrer ma première question qui était « Comment toi, Emmanuel, tu imagines un Québec en harmonie avec l'environnement? »
Moi, je rêverais d'un Québec dirigé par Greta. C'est ça que je rêverais. Ça serait capoté. Imaginez que Greta serait premier ministre du Canada ou du Québec. Ça serait fou, là. Puis moi, j'étais un peu comme ça. J'étais un peu fou de même. C'est-à-dire que si on me nommait premier ministre pour le fun, parce que je faisais campagne, puis j'avais des belles photos, puis que tout d'un coup, j'avais l'air bon, que je devenais premier ministre du Canada, ça serait assez radical, mon affaire. Ça serait probablement trop. Je pense que les gens capoteraient, puis ils rêveraient de me tuer, là, pour plusieurs, parce qu'il y en a plein qui sont très violents avec ça. Moi, j'obligerais des choses. Je serais très radical. Moi, j'ai perdu patience là, depuis quelques années avec, les petits gestes. Puis, probablement que je précède des questions, là, mais les petits gestes, c'est bien cool. Là. Moi aussi, j'essaie d'en faire des petits gestes, puis je suis pas bien bon à être motivé à tous les jours pour que mon quotidien soit cohérent. C'est pas facile de se motiver quand on voit ce qui se passe dans le monde, puis quand on voit les exemples qui sont donnés par les grandes corporations, puis même les chefs de gouvernement. Personne n'a l'air pressé. Personne, comme Greta dit, constate que la maison est en feu, la maison brûle, puis on ne fait rien. Ce n'est pas une maison, c'est un vaisseau spatial qui brûle, puis qui, en ce moment, la carapace de ce vaisseau spatial-là même est menacée, puis on continue pas mal comme si de rien n'était. Et ça, c'est assez affolant. Puis même si les scientifiques se trompaient, là, puis l'humanité n'allait pas disparaître dans 100 ans, ce qui est quand même très étonnant que ça ne soit pas vrai, vu que les scientifiques sont très intelligents et très renseignés, ben quand même, pour la santé au quotidien, la santé publique, avoir de l'air bien pur puis de l'eau bien pure, c'est la grosse base, là, c'est la grosse, puis pour tout le monde en plus. Fait que Québec en harmonie avec l'environnement, ça ne peut pas faire autrement qu'être extrêmement important, ne serait-ce que pour donner l'exemple aussi à l'ensemble de la planète. Puis, si on veut être inspirant pour soi-même, ben, on doit l'être aussi collectivement pour les autres. Puis je pense qu'on a un pouvoir énorme. Comme la Finlande est un pays où la Finlande, la Norvège, ces pays-là, supposément, qui sont donc parfaits, et on n'arrête pas de se comparer à eux puis d'être inspiré par eux parce qu'ils font beaucoup de choses bien. J'imagine qu'ils font des choses moins bien aussi, mais ce serait le fun que dans le monde entier, on dise, hey, le Québec, c'est écœurant ce qu'ils font. Allons les voir, puis ça rayonnerait. Puis on le sait, quand on change une petite chose, nos amis, nos voisins, les gens qui nous suivent sur Facebook, Instagram, n'importe quoi, ça les inspire, là. Ça peut changer des choses. Moi, j'ai été souvent inspiré par des gens que je connais peu ou pas, ou des amis qui me disent, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, il y a comme 6 ans, à peu près, j'ai écouté un de mes amis super mangeur de viande. Il écoutait un documentaire, je pense que c'était What the Health ou Cowspiracy. Les deux ou un des deux. Il m'a dit, écoute ça, man, tu vas arrêter de manger de la viande. Puis je l'ai écouté avec ma blonde, puis du jour au lendemain, on a arrêté de manger de la viande. Puis lui, l'esti, comme on dit, il a continué à manger de la viande, finalement, il a lâché. Et nous, on n'a plus jamais remangé pratiquement de viande depuis ce temps-là. Bon, je dis pas que tout le monde doit arrêter de manger la viande tout de suite demain matin, mais imaginez les conséquences, les effets si c'était le cas. Mais bref, l'impact d'une conversation ou d'un geste est important. Puis même si cette personne-là, après ça, a recommencé à manger beaucoup de viande, en fait, moi, ça m'a impacté. Puis probablement que ça peut influencer d'autres amis. Puis le battement d'aile d'un papillon peut provoquer une tornade à l'autre bout de la planète. Le Québec, de toute évidence, est un endroit, un coin de pays merveilleusement bien équipé pour faire des changements drastiques parce qu'on a des ressources incroyables. L'eau est en abondance, l'eau pure. On a donc aussi beaucoup de possibilités d'hydroélectricité. On peut switcher assez rapidement à l'éolienne et au solaire. On a des grands espaces. Oui, l'hiver, mais on peut inspirer à ce niveau-là. On peut vraiment être un pays qui va tabler majoritairement sur les énergies vertes et nouvelles plutôt que sur le pétrole. Sauf qu'on ne maîtrise pas notre destin. Puis si Justin Trudeau décide d'acheter un pipeline, ben c'est avec notre argent aussi qu'il va le faire. Puis ça va être, on va être pognés avec nous autres aussi. Puis c'est ça qu'il fait, en fait. Puis c'est malheureux. Mais ouais, le Québec a quand même des atouts qui font en sorte qu'ils pourraient se permettre d'être un peu plus audacieux. Puis, sauf que c'est orieux. On dirait que les politiciens sont comme pognés. On ne sait pas de quelle façon. J'aimerais bien essayer d'être en politique des fois pour comprendre qu'est-ce qui fait que les actions ne sont pas plus radicales. Peut-être que si j'étais premier ministre, je n'y arriverais pas, mais je créerais immédiatement une police de l'environnement pour faire, ben là, ça suffit, gang, la récréation est terminée. Il y a comme une urgence, là, puis on ne peut pas attendre la bonne volonté des gens indéfiniment.
Ce serait qui la police de l'environnement?
Ben, ce serait Richard Terrien. non, mais j'ai aucune idée. Ce serait qui? Ce serait la Sûreté du Québec, section environnement ou whatever, police municipale. Ce serait des agents de la paix qui feraient appliquer les règlements environnementaux de base et pour les corporations et pour les individus pour que les comportements délinquants soient punis. Puis comme ça, il y en aurait moins ou il y en aurait plus parce qu'il y en a beaucoup encore de comportements délinquants on fait appel à la bonne foi des gens. C'est super. Il y a plein de gens en feu qui font bien les choses. Mais il y a plein de délinquants qui nous découragent, qui nous dépriment, qui font en sorte que ça avance pas puis que la réduction des gaz à effet de serre opère pas, puis les objectifs de Kyoto se font pas puis se réalisent pas. Puis il est pas juste moins une, là, il était cinq. C'est le gouvernement qui doit créer des escouades qui ont le pouvoir de donner des amendes aux délinquants, puis c'est des grosses amendes pour les gros délinquants, puis les plus petites amendes pour les petits délinquants, ou des avertissements pour commencer, puis après ça, tout le monde se met en phase avec l'urgence d'agir, elle n'est pas juste symbolique, on n'attend plus après la bonne foi, parce que les gens, ils sont pas tous au même niveau. Il y en a qui sont en situation de survie dans la vie. Ils n'ont pas le loisir de penser à l'environnement, parce que c'est trop de préoccupations, trop d'enfants, comme moi, d'autres priorités. Mais malheureusement, ou heureusement, ben pas heureusement, mais il y a une priorité qui est là, qui est pour moi celle, si on croit les scientifiques, là, pas juste les changements climatiques, c'est l'humanité qui est en péril à cause de nos comportements, puis les ressources sont en train de s'épuiser parce qu'on n'en prend pas soin. Il faut prendre soin de nos ressources, il faut prendre soin de l'environnement, mais maintenant, là, d'une façon urgente et désespérée.
Quel serait, selon Emmanuel Bilodeau, qui a une certaine carrière, un certain parcours, qu'est-ce serait le number one, le truc le plus important à viser en ce moment?
Ben pour le champ de bataille prioritaire pour la lutte au changement climatique, pour moi, là, en ce moment, ça paraît peut-être un peu fou de dire ça, mais l'affaire qu'on contrôlerait le plus, c'est la façon de se nourrir, puis éviter le gaspillage alimentaire. C'est niaiseux, hein, ça paraît si peu important comme le gaspillage alimentaire, c'est un problème mondial. Et si on voulait améliorer sensiblement la qualité de l'environnement puis la qualité de la survie humaine, c'est que on réduirait le gaspillage alimentaire, on l'éliminerait, puis c'est comme si tout d'un coup la Chine arrêtait de polluer. C'est capoté à quel point on gaspille, puis à quel point on aussi, à mon avis, on mange pas ce qu'on devrait manger pour survivre. Puis on est intelligent en principe, là. L'humain est intelligent, mais l'humain est en train de foncer dans un mur, il est au courant qu'il fonce dans le mur, puis il n'a pas le goût de peser sur le break. Ça me fait capoter. si tout d'un coup, toute la planète arrêtait d'élever du bétail puis d'en manger, donc, parce qu'il n'y en aurait plus, puis que tous les champs qui servent à élever le bétail étaient reboisés puis servaient à la culture de grains ou de choses qui allaient être dans l'assiette des humains, on serait capoté à quel point la planète s'en porterait mieux, mais rapidement, immédiatement. Oui, il y a le transport, puis les avions, puis tout ça, mais je pense que la culture des animaux, en fait, l'élevage des animaux, comment ça se fait de façon industrielle, et je parle pas des petits élevages là, de basse-cour, puis des 400 poules ici, puis des 300-400 petits agneaux cute dans un champ de 1 hectare, là. Je parle des grands élevages. Alors, pour moi, c'est comme un champ de bataille prioritaire. Oui, la voiture électrique, c'est super, mais encore une fois, la voiture électrique laisse beaucoup de traces environnementales, puis c'est pas encore ça. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites choses qui peuvent être faites, là. Je m'égare parce que moi, je suis TDAH et que je pars, mais arrête-moi, Chloé, si j'ai répondu à la question déjà, là.
Non, ça va être très bien. Tout le monde, on met un climat de détente, là. Il n'y a pas de stress avant pour personne. déjà que mon stress était au niveau maximal avec l'orage, la pluie, puis tout ça, ça va bien. Donc,
c'est quand même pas pire.
OK, on peut dire tout le monde ensemble que c'est important. On a entendu beaucoup parler récemment d'autonomie alimentaire. C'est comme un sujet qui est revenu énormément. Mais est-ce que des fois, autonomie alimentaire peut pas être comme contradictoire avec arrêter de manger de la viande? C'est pas plus une histoire de proximité que de type de nourriture qu'on vient manger, je sais pas.
OK, peut-être, mais mettons que, au moins, mettons quand tu fais pousser du soya dans un champ, oui, ça demande beaucoup d'eau, comme les amandes, ça demande beaucoup d'eau, mais au moins l'amande est mangée par l'humain. Le pouvoir du consommateur est très important aussi. On a un pouvoir énorme. On a un pouvoir énorme de mettre à terre des industries entières. On ne le prend pas, ce pouvoir-là, mais on pourrait le prendre. Si, mettons, moi, je témoigne d'un comportement d'une compagnie pétrolière, de chocolat ou de n'importe quoi, puis que je le prouve un peu ou je le mets sur Facebook ou sur Instagram, puis je me sens victime, moi, de ces comportements de compagnie-là, corporatifs, je pense que ça peut avoir un énorme impact. Puis, par contre, les compagnies sont tellement puissantes qu'ils risquent de nous poursuivre, de nous museler, puis de nous avoir avec leurs avocats, peut-être. Mais je pense que le consommateur, en tout cas, juste en n'achetant pas certains produits de compagnie, puis en disant ce qu'ils ont vécu, ils peuvent se protéger comme ça. Puis si on se met tout ensemble, puis on n'achète plus de ce produit-là, bien, il n'y en aura plus sur les tablettes. Cette compagnie-là va fermer. C'est quand même un énorme pouvoir. On est 8 milliards d'individus supposément intelligents avec des gouvernements qui opèrent pas très vite. Je pense que si on se met ensemble par les réseaux sociaux puis on se dit « OK, gang, on fait fermer l'industrie du pétrole, on met pas de pétrole dans nos chars, mettons, ou j'exagère, c'est peut-être pas la meilleure façon, le pétrole, c'est peut-être pas un bon exemple, mais mettons… »
Mais le moyen est intéressant. Est-ce que les réseaux sociaux en ce moment, c'est un de nos outils les plus efficaces pour la lutte contre les changements climatiques? C'est une drôle de question, mais… Est-ce qu'en ce moment, c'est fort assez puis suffisamment pour faire changer des choses?
Je pense que comme MeToo a été très fort, je pense que localement, chacun, après ça, au Québec, on a eu notre MeToo, chacun a eu son... Je pense qu'on pourrait vraiment utiliser ça au Québec pour commencer, puis après ça, les États-Unis feront leur propre affaire, puis les citoyens intéressés, j'espère que ça pourrait marcher, en fait. Pas tout le monde qui a le même niveau d'indignation puis le même niveau de préoccupation par rapport à, mettons, faire fermer tel magasin ou tel produit. Parce que si on achète plus local, puis on n'arrête pas de le dire acheter local, puis consommons, achetons intelligemment. Mais quand on le répète depuis tant d'années, moi, je ne vois pas tant de changements. Je pense qu'il faut que le gouvernement prenne ça en main. Là. Il faut que l'autonomie alimentaire, il faut qu'on la réalise vraiment là, demain. Il faut que la pollution soit davantage interdite, juste pas permis de suremballer, puis que ce soit... On vous oblige à trouver une façon maintenant écologique de remplacer, mettons, le styromousse dans les boîtes de carton pour livrer des produits chez les gens. Tout ça là, devrait être beaucoup plus et beaucoup mieux légiféré, puis que ça inspirerait tous les citoyens à avoir des comportements eux-mêmes plus responsables. Puis j'en fais appel aux jeunes, comme vous êtes tous des jeunes, c'est à vous à dire à vos parents puis à vos grands-parents, « Hey, arrête, là, ça suffit. » Comme on leur dit aux hommes puis à tous les abuseurs, « T'as assez, là. » Ben, disons-le à nos parents, pour nos grands-parents, c'est assez, là, tu ne peux plus faire ça. Pas. Change ta tondeuse, je ne sais pas trop, convertis-la à l'électricité ou arrête d'en acheter. Achète-en pas une autre, là, tondeuse à gaz. Puis, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, tondeuse à gaz, là, mais mange moins de viande. Puis, tout ça, là, les enfants peuvent le dire à nos parents avec une certaine fermeté, puis les inspirer aussi à changer, à évoluer. c'est complexe. C'est un dossier qui est une bataille qui est sur tous les fronts.
J'ai un gros problème par rapport à la police environnementale. On veut toujours obliger les gens à faire les choses, alors que je crois que la solution viendrait plus d'une solution, en fait, éducative. On n'enseigne pas, en fait, dans les écoles, avoir des cours d'écologie, en fait, de conscience environnementale. Comme là, on met une police, mais en fait, on ne règle pas le problème, on fait juste le déplacer, du sens que les gens ne sont quand même pas conscients des erreurs qu'ils font, mais on va les réprimander pour ça. Alors que je crois qu'à la base, on devrait simplement donner, par exemple, des cours, ça peut être dès le primaire, on peut l'atterrir longtemps là-dessus, mais ce serait plus d'y aller à la base avec des cours officiels, de montrer aux gens quel est l'impact que vous avez, vous, en tant qu'humain, sur la société, avec votre éducation, vos impacts écologiques. On parle de viande, justement. Moi, justement, je mange de viande. Je me gêne pas de le dire, mais j'en mange de façon pas régulière, nécessairement. Mais il y a des gens qui abusent énormément de ça, puis je crois qu'ils sont pas nécessairement conscients du fait qu'ils abusent, justement, de cette consommation de viande, pour prendre cet exemple-là, ou n'importe quoi d'autre. Alors que je crois que peut-être si on donnait des cours d'éducation de base, obligatoire, peut-être que ça ferait évoluer, en fait, la conscientisation des citoyens, des Québécois, par rapport à leur impact qu'ils ont dans le monde qu'ils occupent. C'est un point quand même intéressant, je crois. Puis on n'en donne pas. Puis au Québec, on a tendance à attendre. Je trouve que les gens sont un peu souvent latents par rapport à ça. Simplement dans le sens que le monde attend qu'on fasse les choses pour eux, mais ça doit venir d'une initiative personnelle. L'initiative personnelle souvent commence, pour ma part, personnellement, avec souvent l'éducation. On t'enseigne quelque chose et après ça, tu le répètes machinalement, mais tu as conscience de ce geste-là et ça se répercute sur les autres, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu vois, pour moi, la solution au changement climatique, ce serait vraiment une question d'éducation. Non pas coercitive.
C'est super, là. Puis il y a une proportion de la population qui entend bien les conseils, les consignes, qui entend bien pour faire, pour sauver le monde, pour sauver la planète. Mais il y a une bonne proportion de gens qui s'en foutent vraiment complètement, en fait. Leur confort à eux est plus important. Puis ce dont on parle ici, c'est de larguer une bonne partie de ton confort personnel au profit de la collectivité. Comme quand on arrête de consommer de la viande, là, ben, tu le ferais pas pour toi, tu le ferais pour la planète, pour les jeunes, pour les enfants, dans une génération, dans trois générations. Puis c'est très difficile à faire pour toi d'arrêter la viande, parce que tu fais « what the fuck, pourquoi moi je me sacrifierais? » Puis tout le monde se dit un peu ça, puis moi-même je me le dis des fois. Puis moi-même j'ai été membre chez Costco, puis je trouve ça hallucinant d'avoir été membre Costco si longtemps. Oui, j'ai trop d'enfants à nourrir, puis c'est plus facile, puis c'est plus simple. Il faut que j'arrête ça. Je ne dois plus aller chez Costco parce que ça m'encourage à acheter beaucoup et à surconsommer. Puis, je pense que c'est une mauvaise chose d'aller chez Costco, même si j'adore ce magasin, puis j'adore magasiner, puis j'adore acheter. C'est donc le fun d'être assuré, puisque je suis un insécure, moi, puis mon congélateur, il faut que ce soit plein, sinon j'ai peur là, de COVID, et il y aura une pénurie alimentaire. Puis, mais tu sais, il faut se calmer, puis il faut penser à nos enfants, puis il faut penser à l'avenir, puis il faut être raisonnable. Je pense que malheureusement, moi, le premier, on n'est pas raisonnable, on n'est pas bon pour faire les sacrifices qui s'imposent en ce moment de façon urgente et dramatique, je dirais, pour changer le cours des choses. Et je pense que dans les petites habitudes, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là aussi, parce qu'on est quand même 8 milliards de personnes, plus que ça même, à avoir pour la plupart, ou souvent, des habitudes ou des comportements qui ne sont pas les meilleurs pour la planète. Puis ces 8 milliards-là, ils sont dans leur survie personnelle, puis c'est vraiment correct, je ne les blâme pas, puis je suis moi-même des fois. Mais s'il n'y a pas de police de l'environnement, j'ai bien peur que la bonne volonté et la bonne foi, ils vont pas être la priorité des gens. Là. Ils vont continuer à être dans leur égocentrisme, puis c'est correct, c'est l'humain est fait comme ça. C'est pas très inspirant, c'est pas comme ça que moi je vois l'avenir de la planète, l'avenir de même du Québec, l'avenir de ma ville, de mon coin de pays. Ça prend des dirigeants qui sont dans la bonté, dans l'empathie, dans la vision de demain, une vision réaliste. Et tant qu'à faire, comme on voit que ça a l'air d'aller mal, on devrait juste tirer sur le frein puis se demander si on fait les choses correctement en ce moment. Puis il y a des choses qui sont clairement évidentes, qui ne sont pas correctes. Je pense que si on ne les punit pas, j'ai bien peur, c'est déprimant de dire ça, là, puis je ne suis pas non plus, je trouve ça bien, bien cool, là, l'éducation, mais ça fait 30 ans que je parle, que j'essaie d'éduquer, que je suis porte-parole de plein d'affaires. Il y a rien qui change. Il n'y a rien qui change radicalement. Fait que, à un moment donné, on peut juste se rendre compte que c'est grave. C'est ça, des déversements dans l'environnement non punis. Il y en a beaucoup, beaucoup. Là. Puis ça, c'est un petit exemple parmi tant d'autres de comportements à grande et à petite échelle. qui, à mon avis, qui ne seront pas punis, ils vont continuer puis continuer jusqu'à temps que tout le monde ils perdent au change, puis que notre environnement soit insalubre et que l'eau soit plus potable. T'sais, on veut tout ça? Je sais pas. Ça va mal, je trouve. Moi, je trouve ça va mal.
C'est quand même intéressant de faire opposer les façons qui sont punitives puis les façons qui sont positives. Puis des fois, c'est quand même difficile de s'y accrocher parce que est-ce qu'on a vraiment un bagage pour dire qu'on a essayé les façons positives comme l'éducation, par exemple?
Ça fait plus que 50 ans qu'on parle que ça va mal. Puis vraiment, est-ce que vous avez vu des changements radicaux dans notre comportement? Je parle de la planète, je ne parle pas juste du Québec, mais même au Québec, il y a quand même beaucoup de choses dont on parle depuis 50 ans qui n'évoluent pas dans la bonne direction. Puis je ne suis pas un partisan de la police, là. C'est pas ça que je dis, mais là, je pense que, en tout cas, Greta, s'il était première ministre, je pense qu'elle imposerait des choses. Puis si on impose des choses, puis on n'a pas besoin de recourir à la police, tant mieux. Mais si je parle de police, mettons, pour les individus, tout le monde va être contre. Mais si je parle de police pour les grandes industries, puis il y en a déjà quand même un peu, il y a une surveillance gouvernementale qui se fait. Je pense que les industries, des fois, ont des amendes quand ils se comportent mal. Puis ça a l'air de fonctionner plus ou moins bien.
Moi, j'ai une petite question ou un commentaire. Dans la philosophie du pollueur-payeur, celui qui a l'argent peut polluer techniquement. Fait qu'une multinationale va juste pouvoir payer sa cote de pollution puis faire la même crise d'affaires qu'ils font, tu sais. Admettons dans cette mentalité-là, pourquoi pas aller plus vers des lois de production? Tu sais, moi, exemple ici, là, à Saint-Anne-des-Monts, là, le lendemain de la fête de Pâques, là, ils ont mis au plus de 300 cubes livres de chocolat emballés dans du plastique dans les poubelles.
Ah, man!
Ça, t'as le droit de faire ça. T'sais. Au pire, ils vont payer une amende et ils vont continuer. T'sais. Ça, moi, je pense que taxer la pollution, ça va juste faire plus d'argent à ceux qui taxent puis plus autant de pollution qu'avant. Ceux qui polluent vraiment, ils ont l'argent de la payer, la taxe carbone puis toutes ces patentes-là. Fait que, mais au-delà de ça, les lois de production, pourquoi tu as le droit de produire un paquet de plastique qui a moins de chocolat dedans que de plastique?
Ce que j'ai appris dans des cours d'éducation à l'environnement, c'est que ce qui est proche de nous, comme j'ai dit tantôt, nous touche plus. Chacun a ses petites façons à soi d'essayer de refaire le monde. Puis...
Ben, le cliché de refaire le monde, là, c'est se refaire soi-même. En fait, c'est d'être le changement soi-même de ce qu'on voudrait voir sur Terre. Fait que ça commence avec soi-même. Puis ça va pas vite, là, comme on a parlé de ça. Et oui, il y a des gens qui s'en foutent vraiment. Mais si soi-même, chacun d'entre nous, on est le changement qu'on aimerait être, qu'on aimerait voir arriver sur la Terre. Je pense que c'est la première affaire qu'on peut contrôler et qu'on peut faire. Il est très difficile, là, elle a l'air d'être bien facile. Même pour moi, là, qui est un porte-parole dans l'environnement et qui est ici aujourd'hui, j'avoue toutes mes faiblesses. Fait que je dois me poser à chaque fois la question, est-ce que j'achète ça vraiment, là? Puis est-ce que je pourrais pas faire autrement? Puis acheter moins, puis accepter d'avoir de l'inconfort dans ma vie. Parce que les habitudes, c'est tellement réconfortant. Puis souvent, ça vient de l'enfance. Souvent, ça vient de comment on a été élevé. Est-ce qu'on a été bien élevé dans le fond? Est-ce que nos parents savaient ce qu'ils faisaient en nous procurant tout ce beau confort? On doit accepter des zones d'inconfort maintenant. Puis c'est pas si pire. On vit juste au Québec, là. On est privilégié en tabarnouche. Ce qu'on peut faire, là, c'est, ça ne nous fera pas devenir des migrants. Puis il y a tellement d'humains en ce moment qui sont dans des zones de survie à cause de l'environnement, entre autres, là, qui sont vraiment en péril. Il faut qu'on fasse un petit quelque chose pour leur tendre la main à ces humains-là qui ont tous les droits, comme nous, d'avoir une vie digne.
On a tous des petites façons à nous de le refaire, le monde, de faire un geste, un autre geste, une petite niaiserie. Est-ce que ces petits gestes pro-environnementalistes-là, du quotidien, des petites choses comme convaincre mon papa d'arrêter de boire des bouteilles de plastique Kirkland parce qu'elles sont moins chères, est-ce que ces petits gestes-là font vraiment la différence? Est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'énergie dans ces petits gestes-là, puis moins d'énergie dans des gros changements comme changer de gouvernement? Je deviens intense. Je te laisse la parole.
J'adore ça que tu sois intense, mais les petits gestes, il faut toujours se rappeler qu'on est quand même énormément d'humains sur la planète. Puis chaque petit geste qu'on fait, on se dit, moi, mon test, c'est si tout le monde faisait ça, quel impact ça aurait? Il y a des affaires comme toilette au compost, mettons. Ça, c'est une des initiatives que je vais faire dans ma petite émission de télévision. Moi, je découvre ça, là, je tombe des nues. Il y a des toilettes là que tu achètes. Mettons, tu construis une nouvelle maison, là, tu pourrais, là, puis les municipalités ne sont pas rendues là, ça a l'air que c'est difficile à faire passer. Tu es tout en un, tu as une toilette, puis tu fais tout ce que tu veux dedans, ça composte, puis une fois par année, tu as du compost que tu mets dans ton jardin. C'est capoté, on achète du fumier de cheval, du fumier de mouton, ah ouais donc, mais on est complètement rébarbatif à l'idée de mettre notre propre compost dans notre jardin. C'est une idée qui est difficile à faire changer, mais qui pourrait changer, qui pourrait révolutionner le monde aussi. Sur les 3 toilettes qu'il y aura dans notre maison, s'il y en a qui ont 3 toilettes, là, tant mieux pour eux. Mais s'il y en a une au compost, déjà, c'est merveilleux. Puis c'est assez avancé comme technologie que ça sent rien, puis c'est merveilleux.
Est-ce qu'il y en a qui sont... Parce que moi, je fais partie de l'équipe des pessimistes un peu, qui ne croient pas nécessairement que c'est le moyen le plus efficace, les petits gestes. Okay. Et j'ai l'impression, dans mes lectures, que c'est la mobilisation collectif qui fait vraiment une différence. Quand on vient changer des habitudes, pourquoi on le fait, comment on le fait, puis est-ce que ça a vraiment un impact? Moi, je trouve des fois que c'est tellement déconnecté de l'impact réel sur le but qu'on veut atteindre, réduire les GES ou venir juste conscientiser tout le monde, bref. Emmanuel nous écrit dans la préface d'un livre qui s'appelle « Sauve ta bouffe », que je vous recommande, que j'ai commencé à lire. Il se dit se considérer environnementaliste et parler du complexe de sauveur de la planète. Est-ce que n'importe qui peut se considérer environnementaliste? Dois-je avoir des études pour me considérer environnementaliste? Puis, c'est quoi ce complexe de sauveur de la planète? Est-ce qu'on l'a tous en étant nécessairement concerné par ce qui se passe ou pas?
Mais moi, je connais personne qui n'est pas attaché à l'environnement puis qui va dire l'environnement, je m'en crise puis la planète pourrait mourir. Je connais personne comme ça, mais peut-être qu'il en existe, mais... Moi, le complexe du sauveur, en fait, je pense que ça m'est tombé dessus parce que je m'appelais Emmanuel, puis mon père m'avait dit que ça voulait dire Dieu avec nous, Dieu aussi sauveur de l'humanité. Puis je pensais quand j'étais jeune, quand j'avais 3 ans, là, que je pouvais sauver le monde, puis que j'avais le pouvoir là, de... Puis rapidement, je me suis rendu compte que non, mais ça m'a quand même inculqué une espèce de... Mon Dieu, peut-être que je pourrais sauver la planète. Puis ça a motivé certaines actions chez moi. Puis mais je pense que j'ai plus la panique facile, dans le fond... que la plupart des gens. Et moi, je m'énerve rapidement avec des situations d'urgence. Puis, en fait, j'aime l'urgence. Je suis né avec un père qui paniquait facilement. Puis, on était 12 enfants, nous. On était 12 enfants. Puis, 12 enfants dans le char, pas attachés. Puis, mon père criait, « Voyeul, danger de mort! » Parce qu'un char, c'est dangereux. Puis, qu'on n'est pas attaché personne. Puis, on roule vite. Et je pense que j'ai reçu ça un peu de façon intragénétique. Mais ça ne veut pas dire que j'ai raison d'être paniqué de même. Ça ne veut pas dire que je vais imposer ma façon de voir. Mais quand elle est cautionnée par les scientifiques puis que tout le monde dit que j'ai raison d'être énervé puis de paniquer, ben ça décuple un peu mon complexe du sauveur. Pour ça, je pense que je suis devenu une personnalité publique avec joie. Je me suis prêté facilement à ce jeu-là, ce rôle-là, parce qu'il y a plein d'amis vedettes qui ne veulent pas s'impliquer socialement parce que ça nuit à leur aura d'acteur ou leur carrière. Puis moi, je me suis toujours dit que j'allais accepter dès que la cause m'allumait ou me parlait personnellement. Fait que c'est pour ça que je suis devenu un peu public là-dessus puis que j'en parle beaucoup de cette crainte-là que notre environnement puis notre planète périclite parce que c'est vraiment une affaire scientifique maintenant. Je pense que peur ou pas peur, les chiffres sont là pour démontrer qu'on doit agir extrêmement rapidement puis qu'on le fasse sous le coup de la peur ou qu'on le fasse sous le coup de la raison. Je pense qu'il faut agir avec énormément de vigilance et de rapidité en ce qui concerne l'environnement, puis bien plus encore.
Ouais. C'était comme à l'été 2020, hein? Fait que j'ai parlé de COVID.
Et donc, agir avec intensité comme on a agi avec le COVID-19, je suis d'accord. Je pense qu'on est dans une crise. Une crise, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mais j'ai l'impression que la crise environnementale a des impacts plus lents. Dans tous les cas, il y a cette notion de peur qui amène beaucoup de culpabilité. Mais comment gérer une crise en évitant de jouer avec la culpabilité des gens puis de faire sentir mal tout le monde?
À un moment donné, on doit juste se dire « Hey, fuck off, ils se sentiront mal les gens s'ils se sentent mal qu'on leur dise « Change tes comportements, là, ça va mal. » Là, c'est plus une question de ça. Là. Le COVID-19, si les gens disaient « Excusez, peut-être vous devriez peut-être faire attention, tirochant un peu le poignet, le virus, puis si vous mettez pas des masques, tu sais, on le sait, là, s'il y a un bar là, ouvert, puis le monde danse à 3 heures du matin, collé les uns sur les autres, on voit là, ce qui se passe, là, les gens, ils pognent le virus. Fait que si on dit, excusez, peut-être serait cool que vous n'y allez pas, puis les gens continuent à y aller, ben, à un moment donné, on fait, hey là, come on, on ferme les bars, fini. Puis l'environnement, on devrait le traiter de même. On dit juste, excusez, la planète va peut-être mourir bientôt. Va mourir, en fait. Pas la planète va survivre, mais l'humain va disparaître. Puis nos enfants n'auront pas d'enfants. Ou les enfants de nos enfants vont être dans une marde, là. Comme dans les films là, américains, à sensation. Ça va s'avérer. Là. L'air va être irrespirable. La sécheresse va être terrible. Les ouragans, les mouvements migratoires. C'est tout ce que ça entraînera peut-être comme conséquence, puis c'est pas très à long terme, là. C'est un peu commencé, c'est la fonte des glaciers, la Venise commence à sombrer sous l'eau, on voit plein de signaux que je vous nommerai pas ici, je suis pas scientifique, on les voit les indicateurs de l'environnement, ça va super mal, puis on continue à dire, ben non, mais pas grave, on peut pas culpabiliser les gens avec ça. Ça, c'est plus une question à mon avis, là. C'est plus juste, hey, fuck off, les gens qui se sentent coupables, là. Moi-même, je me sens coupable, mais je me sens quand même dans une énergie de pour faire de quoi, là? Pour faire de quoi? Puis, faut pas trop attendre que les gens arrêtent de se sentir prêts à bouger un petit peu, quelque chose. Faut faire de quoi à tous les niveaux, tous les plans. C'est une guerre contre nous-mêmes, en fait. C'est le combat de l'humanité, en fait, qu'on doit mener en ce moment. On est si plate, là. On est cette génération-là de gens vivants, contemporains, d'une crise extrêmement existentielle. Puis très importante, puis on doit la gérer avec intelligence. Puis ceux qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas motivés, ben on doit juste pas tenir compte de leur avis, en fait, à la limite. Parce que c'est ça qu'ils font en ce moment. La crise du COVID est gérée par des gens, des scientifiques. Pourquoi nous, on laisse pas les scientifiques aussi gérer la crise environnementale? Puis écouter ce qu'ils disent, puis le faire, comme on fait avec le COVID. Il y a plus de morts avec l'environnement en ce moment qu'avec le COVID, puis on fait rien parce que ça va être si pire, c'est plus lent, effectivement, c'est moins à chaque seconde là, que quelqu'un meurt à cause de l'environnement. Il y avait des conditions, la vieille personne est asthmatique, est morte à 82 ans de l'environnement, mais c'est pas si grave. Alors que là, c'est comme grave, le COVID a tué quelqu'un de 82 ans, puis là, on ferme tout. Ben, come on, je trouve, come on, on devrait être conséquent. Puis mondialement, s'asseoir et faire, OK, on est toute une gang de pays. On va s'entraider comme on le fait pour trouver un vaccin en ce moment. On va trouver une façon de mettre un terme à l'activité humaine qui tue la planète. Puis essayer de trouver des façons ensemble de. Comme si un astéroïde nous fonçait dessus, là, on le ferait. Si un vaisseau spatial de Alien disait on va vous attaquer dans 3 semaines, on va vous tuer toute la Terre, on ferait de quoi? Là, en gang, on ferait, il faut qu'on fasse les divergences. Kim Jong, as-tu une idée pour nous? Comment on pourrait s'en débarrasser de. Ce vaisseau spatial qui va nous tuer dans. Tu sais, c'est pas tendre la main chacun, puis qu'on s'allie, puis qu'on fasse quelque chose de fort, de très fort.
C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est une guerre contre nous-mêmes parce qu'on vient créer des impacts, mais après, si on essaie de travailler contre ces impacts-là, mais on doit travailler ensemble pour réussir à le faire. Donc, on a le droit d'être tiraillé au final parce que.
Ouais, ouais,
on travaille ensemble contre nous-mêmes.
J'ai réfléchi à ce qu'on a dit tantôt. T'es pas là, mais on réfléchit quand même. par rapport à la coercition, etc. Puis okay, tu vois, ouais, je reviens à là parce que, encore une fois, je considère que c'est à la base, mais t'as pas tort non plus avec ta coercition. C'est vrai qu'il faut sanctionner les gens par rapport à ce qu'ils font parce qu'on s'entend que, comme tu disais, tout ce que tu dis depuis tantôt, c'est très vrai. L'initiative personnelle, il y en a plein qui la font pas parce que dans leur confort, ils se sentent vraiment trop bien, donc faire une initiative pour l'environnement, ben, ça serait d'aller au-dessus de leurs valeurs, donc ils ne le font pas. Mais tu vois, je pense aux pays européens, par exemple. Puis pourquoi nous, on n'a pas, par exemple, de compteur d'eau, par exemple? C'est une mesure coercitive, on s'entend. C'est pas parce qu'on a, beaucoup, on a plus d'eau qu'en Europe qu'on doit plus la dépenser. Un compteur d'eau, par exemple, ça limiterait justement les rejets de ce monde sans faire de péjorativisme, qui arrosent leur entrée pour la nettoyer, etc., etc. Ou, je sais pas, l'électricité, par exemple, la facture est quand même relativement faible comparativement en Europe. Alors, pourquoi on la paye si faiblement, alors que ça reste quand même une denrée qui n'est pas inépuisable, on s'entend. Qu'est-ce que tu penses, justement, d'instaurer des mesures de ce genre-là au lieu d'engager des personnes qui feraient la discipline?
Je pense qu'il y a des compteurs d'eau, il y a déjà des industries ou des grandes corporations qui en ont parce qu'il y en a qui utilisent énormément d'eau potable pour leur production. Il y a déjà eu des questions de compteurs d'eau à Montréal. Il y a eu comme un scandale, comme une dizaine, quinzaine d'années. Il devait y avoir des compteurs d'eau. Puis là, il y a eu des affaires mafieuses un peu. Ils ont tout arrêté. Je ne sais pas trop exactement ce qui s'est passé, mais ça a été arrêté. Je pense que c'est une des nombreuses mesures. C'est pas de la coercition. C'est on utilise quelque chose, une ressource, on doit la payer. Ça va aussi inciter les gens à l'économiser. Moi, dans mon chalet, il y a un puits artésien. Je sais que c'est pas à l'infini là, la nappe d'eau. Fait que je l'économise un peu naturellement. Si les gens avaient des compteurs d'eau puis payaient pour leur utilisation, probablement qu'ils prendraient des douches moins longtemps puis ils économiseraient mieux l'eau. C'est une des choses qu'on doit faire, je pense. Effectivement, ça pourrait être fait. Si ça ne coûte pas trop cher à l'environnement de produire des compteurs d'eau puis les appliquer tout ça, tu sais, c'est tant mieux. Il faudrait calculer ça, mais il y a plein d'autres choses à faire aussi en urgence. Là. En général, on doit mettre un compteur chaque maison sur ce que tu achètes et ce que tu produis comme pollution. Bien, faut que tu rembourses, faut que tu, ça va faire que les gens vont moins acheter, faut compenser carbone, puis faut acheter moins, puis moi j'irais même jusqu'à peut-être imaginer qu'on pourrait taxer des grands, les Walmart, les Costco de ce monde, ce sont des magasins super là, c'est le fun d'aller là, mais eux, ce que ça a comme impact sur notre économie, puis sur notre environnement, puis sur notre emploi, ça a des conséquences assez graves qu'on voit pas au quotidien, mais des petits commerçants locaux qui disparaissent à cause des Costco qui vendent le même produit beaucoup moins cher, ça a un impact environnemental très fort. Puis ça consomme plus, puis ça fait qu'il y a moins de local qui se passe. Puis c'est un peu un vase communicant assez direct. Plus il y a de Costco et de Walmart, et plus il y a de pollution, je pense. Et ça, on le voit pas au quotidien, puis je pense qu'on devrait se pencher aussi là-dessus. Par un autre exemple de choses, il y a énormément de dossiers en environnement qui peuvent être réévalués, qui doivent être réévalués et qui doivent faire partie d'une immense réflexion très solide et très, très urgente. Mais lire ce que le pacte a mis sur sa plateforme web comme suggestion, comme proposition, même au gouvernement, c'est extrêmement important que tout le monde le fasse, mais très peu de gens vont le faire. Mais les propositions sont là, sont claires, sont bonnes, puis c'est le minimum qu'on peut faire. Là. C'est le minimum qu'on doit faire urgemment, puis c'est plate, mais on ne le fait pas. On ne le fera pas peut-être non plus. J'en appelle, j'en implore le gouvernement Legault de se dépêcher de faire des choses. Parce que le COVID, oui, c'est super important, là, mais il y a plein d'autres dossiers qu'on ne doit pas négliger.
Moi, mettons, je suis un jeune dans la vingtaine. Je me considère comme quelqu'un que les bottines ne marchent pas avec les babines. Par exemple, moi, je me considère comme étant un jeune extrêmement, mais quand je dis extrêmement, je le dis en majuscule, chanceux. Premièrement, parce que je suis en santé. Deuxièmement, parce que j'ai eu une bonne éducation de mes parents. Là où je veux en venir, c'est que moi, mes bottines ne marchent pas avec mes babines parce que j'ai des poules à la maison. Je me dis, waouh, je vais changer le monde parce que j'ai 3-4 poules. On est un refuge pour chats. En 2 ans, on a accueilli, grâce à ma conjointe extraordinaire, au-dessus de 120 chats. Moi, je veux faire du tourisme dans les réserves autochtones. Puis je me dis, au final, je crois que mes bottines ne fonctionnent pas avec mes babines parce qu'en ce moment, je porte un chandail. Je porte un manteau North Face qui a été cousu par des enfants chinois. Quand que nos désirs personnels, notre confort personnel, tu sais, vous, monsieur Emmanuel, vous avez un chalet, vous l'avez dit, hein? Vous avez une résidence primaire et un chalet. À quoi ça sert d'avoir 2 maisons?
Hey, j'ai 4 enfants en plus, là. Ça pollue en esti des enfants.
Mais
c'est vrai, pareil. Mais, là.
Pourquoi on le fait? Tu sais, si on se disait, il faudrait vraiment comme être écologique, il faudrait rester sur notre sofa. À rien faire pour dépenser le moins de calories possible. À un moment donné, c'est où la limite? Il faut s'arrêter où? Tout le monde ici a pris sa voiture pour venir au Sea Shack. C'est qui ici qui vient de Montréal, genre? Il n'y a personne, OK, d'abord, mais il y a...
Je ne cherche pas à aller.
Mais tu sais, il y a beaucoup de monde. Hey, on prend nos chars. Puis, moi, ma question, c'est la limite, elle est où? C'est quand qu'on s'arrête de vivre? Pourquoi je prends de la bière à soir? Pourquoi? Puis hey, en passant, je suis végétarien en plus, tu sais. Rajouter la cerise sur le sundae. Et où la limite?
On mais donc, jusqu'où on est prêt de brimer nos libertés exactement personnelles pour faire un move collectif?
Moi, je te dirais, pour t'inspirer, là, te demander, il faut se demander, nos rêves, ils viennent d'où vraiment? Nos rêves puis nos aspirations au quotidien là, de faire du 4 roues puis d'aller visiter la Thaïlande, puis d'aller visiter telle affaire extraordinaire dans un autre pays. Ça a été inculqué par quoi, ça, ces fameux rêves-là? Il y en a qui, c'est clair, là, il y en a qui rêvent d'avoir une Porsche à mon âge, là. C'est ça leur grand rêve depuis toujours. Puis il n'y a personne qui va les empêcher d'acheter une Porsche. Parce que eux, c'est ça, là, l'ultime image du bonheur. C'est de questionner ces rêves-là. Puis qu'on questionne les rêves qu'on inculque à nos jeunes aussi. Il faut pas. Moi, je sais que les rêves de mes enfants, ce serait d'acheter un vélo vraiment hot là, pour se promener l'hiver toute leur vie dans Montréal, mettons. Puis moi, mes rêves, je les questionne aussi. La retraite, là, mes beaux-parents, là, ils voyagent, eux autres. Puis ils voyageaient avant le COVID. Puis là, ils se posent des questions sur l'environnement puis les voyages. Est-ce qu'ils vont changer de rêve? C'est ces questions-là qu'on peut se poser. Notre fameuse liberté, là, est inculquée par qui? Par quel système profondément qui veut vraiment notre bonheur? Est-ce que le système veut vraiment qu'on soit heureux en achetant des quatre roues puis en voyageant comme des fous puis en polluant comme le Christ? Je suis pas sûr, moi. Puis c'est ça qu'il faut tout revisiter, puis c'est pas facile à faire. Puis c'est plus facile quand on a 55 ans de le dire à des jeunes, arrêtez de vouloir des quatre roues, méditez, asseyez-vous, puis c'est très dur à faire, mais je connais des jeunes qui le font, qui ont bien plus évolué que moi je l'étais à leur âge, puis je suis bien impressionné. Ça, c'est inspirant pour moi. Puis non, il faut pas arrêter de bouger, il faut pas arrêter de voir des gens, puis de rouler, mais on peut peut-être tout faire ça, mais différemment, avec plus de lenteur. C'est très difficile parce que la société n'est pas bâtie comme ça. Je pense qu'il faut débâtir la société puis la reconstruire from scratch, de zéro, puis de tout réviser notre affaire. Parce que, anyway, on n'a pas le choix. On va tout y passer bientôt.
Ben moi, j'aime beaucoup ta réponse, Emmanuel. Je la trouve super franche. Mais tu sais, quand même, on dit on veut se débâtir, on veut recommencer la société. De ce que j'ai compris de ton message, c'est qu'on a besoin de peu, l'être humain, pour se contenter. Tu as dit... Il y a plein d'études qui prouvent que la richesse ne fait pas nécessairement le bonheur. C'est ce que tu disais un petit peu, c'est ce que j'ai compris, c'est ça?
C'est bien ça, oui.
Bien, la richesse matérielle. En fait, c'est que, par exemple, quand je côtoie, mettons, les gens avec mon travail, moi, je me rends compte que la pauvreté dans la société... Moi, je viens de la ville de Québec, par exemple. Il y a une pauvreté incroyable, puis je me rends compte que la pauvreté monétaire, matériel, amène des mauvaises habitudes de vie puis amène des problèmes psychologiques, autant des idées suicidaires, de la dépression, de la consommation, de la toxicomanie. Moi, je pense que on a des belles discussions qui sont incroyables, mais quand on est dans la ouat, moi, je me considère comme étant un humain dans la ouat. J'ai une maison, j'ai un terrain, des poules, mais c'est facile de parler quand j'ai les moyens d'avoir une voiture, d'aller au C-Shack, de parler ici. Quand il y a plein de gens qui ont de la misère à manger, fait comment qu'on ferait pour demander aux gens qui ont de la misère à manger d'acheter québécois, d'acheter écologique? Un chandail au H&M, c'est 8 $, mais un chandail qui est fabriqué au Québec, c'est 45 $. T'sais, c'est facile de dire « ouais, on refait tout le système, mais ça ne marche pas comme ça ». Quelle serait la vraie situation pour se dire « c'est quoi le point de départ? » Parce que je vois la conversation aller, je me dis « il y a tellement de choses à changer ». Le point de départ, il est où? Réalisable pour nous. À 25 ans, on a des poules puis on s'achète du linge fait en Chine.
Je pense que chacun y va à la mesure de ce qu'il est capable de faire.
C'est une bonne réponse.
Si tu peux t'acheter un chandail fait au Québec qui va être plus écolo, ben, tu le fais. Tu n'exiges pas que ton voisin qui ne peut pas le faire le fasse, mais idéalement, tout le monde avait... Oui, c'est ça, l'éducation est très importante. Tu peux être pauvre, mais être éduqué faire des choses qui sont inspirantes pour tes voisins, puis te débrouiller avec trois fois rien. On le voit dans des endroits comme en Inde, dans des villes où est-ce que les gens dorment par terre avec même pas un toit sur la tête, puis sont dans le partage, puis l'entraide. Il y a moyen d'être heureux même avec rien. On est-tu prêt à le faire? À un moment donné, on n'aura pas le choix, parce qu'à un moment donné, on va tout perdre, mais je pense que chacun doit faire ce qu'il peut et le faire vite, par exemple, puis le faire bien, mais... Il faut faire des choses. Il faut faire des choses, puis chacun. Puis moi, le premier, là, je dois faire des choses plus radicales pour être en, aussi que mes bottines suivent mes babines, puis que tout le monde mette l'épaule à la roue. Puis qu'on... Mais c'est dans des discussions même que commence, que germe des idées, puis que ça peut avoir des impacts. Il ne faut pas les sous-estimer. Il faut faire des choses.
Moi, je suis sûr que tu as raison. Puis écoute... J'aime bien avoir... En fait, ce qui est cool, c'est qu'on en parle maintenant. Chose qu'on ne faisait pas avant. Fait que je trouve que c'est une belle avancée. Puis je suis privilégié d'avoir partagé une belle discussion avec toi et tout le monde ici.
Moi aussi, vraiment.
Maintenant, je vais donner le micro à quelqu'un que je ne sais pas, puis je te remercie beaucoup de ta présence.
C'est très hot, très drôle, merci.
Eh bien, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui sont venus sur place. C'est embryonnaire, ça va se peaufiner de fois en fois, ça va se reproduire à chaque semaine. Je tiens donc à dire un gros merci à Emmanuel de sa grande générosité, merci. Je tiens vraiment à dire un gros merci parce que c'est un projet qui veut juste essayer de rendre accessible des sujets, des idées, puis des personnes qui ont une influence. Donc, un grand merci, puis une belle soirée.
Merci à vous, puis bonne soirée, puis j'ai hâte d'aller vous voir dans votre coin de pays. Puis c'est ça, merci. Ça m'a fait plaisir de partager des angoisses et des réflexions avec vous, tout ça sur le mode de « Hey, j'en sais pas plus qu'un autre ». Fait que bye Chloé, merci, bravo, t'es vraiment super, puis c'était super comme événement.
Ce projet a été possible grâce à la collaboration de l'Association de mise en valeur du secteur tourelle Ruisseau-Castor et de l'Auberge festive Sichac. On remercie énormément tous les autres partenaires, soit le Centre local de développement ainsi que la Caisse populaire des Jardins de la Haute-Gaspésie, le Family Prix Extra de Saint-Anne-des-Monts, ainsi que le mouvement de mobilisation Nourrir notre monde. Puis là, avant que tu t'en ailles, je veux t'inviter au prochain épisode avec Pascale Bergeron, nouvellement présidente de la Fondation Coule pas chez nous. Bye bye là!